Laudetur Jesus Christus.
Des soupçons de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en Éthiopie, c'est ce que relève un rapport destiné au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. La guerre fait rage dans le pays depuis bientôt 2 ans, mais disparaît des écrans radars médiatiques. Nous y revenons au début de ce journal. Retour à la réalité pour des millions de Britanniques après 10 jours de deuil national qui ont culminé hier après l'enterrement de la reine Elisabeth II. C'est désormais l'inflation ou les coûts de l'énergie qui reviennent au cœur des débats. À la une de ce journal, cette grève dans 150 écoles de Jérusalem pour protester contre l'imposition par Israël de programmes scolaires niant l'histoire palestinienne. Nous irons aussi au Guatemala où une ville s'est dressée contre un projet d'extraction minière. Et puis dans notre dossier ce matin, direction la Guinée-Conakry. 1 an après le coup d'état militaire, le pays semble toujours bloqué. L'opposition, tout comme la jeunesse, s'en inquiète.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, la guerre civile continue en Éthiopie entre l'armée fédérale et les séparatistes tigréens. Une guerre qui a connu une trêve mais qui a repris ces dernières semaines. Des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont probablement été commis depuis le début de ce conflit. Et c'est ce qu'a révélé hier un rapport destiné au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Adélaïde Patrignani.
Oui Olivier, la commission qui l'a rédigée se dit profondément troublée de ce qu'elle a vu, explique-t-elle, qui reflète une profonde polarisation et haine entre ethnies en Éthiopie. D'où un cycle inquiétant de violences extrêmes avec des représailles et un risque imminent de nouvelles atrocités encore plus graves, s'alarment les experts. Il y a des motifs raisonnables de penser que dans plusieurs cas se sont produits des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, écrivent-ils. Alors ce n'est pas la première fois qu'un rapport dresse ce constat. Déjà en novembre 2021, la Commission éthiopienne des droits humains et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains lançaient l'alerte. Mais sur le terrain, la situation n'a pas changé. Depuis novembre 2020, ce conflit oppose le gouvernement fédéral du Premier ministre Abiy Ahmed aux rebelles tigréens du Front de Libération du Peuple du Tigré qui contrôle cette région du nord de l'Éthiopie. Après 5 mois de trêve, vous l'avez dit, les combats ont repris fin août dernier. Le nombre de morts est inconnu, mais il y aurait 2 millions de déplacés et 90% de la population du Tigré a un besoin urgent d'assistance. La commission va continuer son enquête jusqu'en décembre. Elle émet aussi des recommandations, par exemple, que les auteurs de ces exactions soient jugés.
Adélaïde Patrignani. La 77e Assemblée générale des Nations Unies s'ouvre à New York ce mardi avec, comme chaque année, l'occasion de faire le point sur les grands défis géopolitiques. Guerre en Ukraine, crise énergétique ou autres situations de conflit, les dossiers seront nombreux. Promis à prendre la parole ce mardi, Jair Bolsonaro, le président du Brésil qui brigue un nouveau mandat à la présidentielle du 2 octobre prochain. Elles sont également attendues aujourd'hui le président polonais Andrzej Duda ou encore le chancelier allemand Olaf Scholz, qui devrait évoquer en particulier le conflit en Ukraine et ses conséquences. En Ukraine, justement, la République de Lugansk, région séparatiste pro-russe, a demandé hier l'organisation d'un référendum immédiat en faveur d'un rattachement à la Russie. Les crimes continuent et la guerre continue évidemment dans le pays. À Izioum, près de Kharkiv, la Russie a qualifié de mensonge hier la découverte de centaines de tombes. Moscou est soupçonné de crimes contre l'humanité. Izioum, où s'est rendu hier l'envoyé spécial du pape François en Ukraine, le cardinal Konrad Krajewski, qui s'est recueilli devant ces tombes et ces fosses communes. Le cardinal polonais, qui il y a 2 jours avait essuyé des tirs sans être blessé alors qu'il apportait de l'aide à la population irakienne. Après 10 jours de deuil national qui ont culminé hier par les funérailles grandioses en l'honneur de la reine Elisabeth II, retour à la réalité pour des millions de Britanniques qui se retrouvent confrontés à l'aggravation de leur quotidien, notamment à une forte hausse des prix de l'énergie, une inflation à plus de 10% et la reprise de grève. Et le plan proposé pour faire face à la crise de l'énergie par la nouvelle Première ministre, Liz Truss, suscite plusieurs critiques des économistes ainsi que des réserves jusqu'à dans son propre camp. À Londres, Jean Jaffré.
Un gouvernement britannique n'a pas eu à relever autant de défis depuis plus de 40 ans. Outre la hausse du coût de la vie qui obligera cet hiver beaucoup de familles à choisir entre manger ou se chauffer, les grèves dans les transports vont reprendre et pourraient s'étendre au secteur de la santé et de l'éducation. Se posant en héritière de Margaret Thatcher, Liz Truss refuse de taxer les superprofits des compagnies pétrolières et gazières. Son plan prévoit de garantir les prix du gaz et de l'électricité pendant 2 ans. Le coût pour le Trésor est estimé à plus de 100 milliards de livres. Pour relancer la croissance, Liz Truss veut supprimer les réglementations héritées de la législation européenne dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement et des droits du travail. Sa décision de supprimer le plafonnement des bonus dans la City est considérée comme une aubaine pour le parti travailliste qui a 10 points d'avance dans les sondages. Enfin, si la Première ministre continue de vouloir modifier unilatéralement le protocole nord-irlandais visant à préserver la paix en Ulster, elle prend le risque d'une guerre commerciale avec l'Union européenne et d'un blocage des négociations sur un accord de libre-échange avec les États-Unis, garant des accords de paix de Belfast. Londres, Jean-Jaffré, Radio Vatican.
C'est un verdict très attendu au Cambodge. Le tribunal spécial de l'ONU jugeant les crimes des Khmers Rouges va rendre jeudi prochain son jugement au sujet de Khieu Samphan, le dernier haut dignitaire du régime Khmer Rouge encore vivant. Celui-ci avait fait appel de sa condamnation pour génocide en 2018. Ce tribunal spécial a été créé en 2003 et rendra ainsi son dernier verdict de 1975 à 1979. Les Khmers Rouges ont terrorisé le Cambodge. Ils sont responsables d'avoir tué près de 2 millions d'habitants, soit plus de 20% de la population de l'époque. Et direction à présent le Guatemala. 28 000 Guatémaltèques étaient appelés aux urnes dimanche dernier. Les habitants de la municipalité d'Asuncion Mita, à la frontière avec le Salvador, se sont prononcés contre le projet d'extraction d'or et d'argent d'une société minière canadienne. Un projet accusé par les écologistes, mais également par l'église locale, accusé bien sûr de polluer l'environnement. La correspondance de Léa Morillon.
C'est le nom qu'il a emporté dimanche au Guatemala. Sur les 8500 personnes qui se sont déplacées, 88% ont voté contre le projet minier Cerro Blanco. L'entreprise canadienne Bluestone Resources a racheté cette mine en 2017 pour 18 millions de dollars, mais le projet n'a toujours pas démarré suite à un changement de méthode d'extraction, la société préférant passer d'une extraction souterraine à une exploitation à ciel ouvert. Une méthode certes plus productive, mais elle nécessite l'utilisation de cyanure, ce qui a déclenché de nombreuses inquiétudes. Membres de l'église catholique locale et des organisations environnementales du Guatemala et du Salvador s'opposent fermement au projet en raison du risque de pollution de l'eau et des forêts de la région. Ils craignent notamment la contamination de la rivière Lampa, la principale source d'eau alimentant la capitale salvadorienne, tandis que les pêcheurs de la lagune de Guira redoutent une pénurie, voire une disparition du poisson. Le maire d'Asunción Mita, René Antonio Guardado, a demandé hier de respecter le résultat de cette consultation, bien qu'il n'ait pas exclu la possibilité que la société minière conteste le verdict devant les tribunaux. Léa Morillon pour Radio Vatican.
Chypre et Israël veulent apaiser leurs différents gaziers. Hier, les ministres de l'énergie des deux pays se sont rencontrés à Nicosie. Ils ont convenu de continuer à œuvrer d'une manière constructive en vue d'un règlement équitable et rapide, selon un communiqué chypriote. La découverte de champs gaziers dans la Méditerranée orientale et dans les eaux territoriales des deux pays a suscité de nombreuses tensions ces derniers mois. À Jérusalem, quelques 150 établissements scolaires palestiniens accueillant près de 100 000 écoliers, collégiens ou lycéens ont observé hier une grève très suivie et soutenue par l'autorité nationale du président Mahmoud Abbas. Grève pour protester contre l'intensification des pressions et menaces d'Israël, les forçant à adopter le programme scolaire du secteur israélien, un programme qui bannit toute mention de la Palestine ou de son histoire. À Jérusalem, Valérie Ferrand.
Cette grève a été largement observée aussi bien par les écoles gouvernementales que les privées dépendant des wakfs musulmans ou des patriarcats chrétiens, ainsi que de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, l'UNRWA, qui toutes suivent le programme scolaire du ministère de l'Éducation de l'Autorité nationale palestinienne en vigueur dans l'ensemble de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Israël a toujours tenté de les forcer à adopter le programme du secteur arabe israélien en les menaçant notamment de les priver des subventions auxquelles elles ont le droit, mettant en péril un peu plus le droit à l'éducation des jeunes palestiniens dans la ville sainte. Enseignants et parents font donc bloc, dénonçant une tentative de distiller une vision sioniste du monde dans les esprits de leurs enfants, équivalent à un dangereux lavage de cerveau. S'ils sont résolus à défier les pressions israéliennes, beaucoup espèrent qu'une campagne nationale, voire internationale, va pouvoir être mise en place, conscient qu'une grève d'une journée ne suffira pas à remporter ce sérieux bras de fer avec la puissance occupante. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
La province iranienne du Kurdistan était elle aussi en grève hier pour protester contre la mort, cette fois-ci vendredi dernier, d'une jeune femme non voilée après son arrestation par la police des mœurs. Depuis, les manifestations se sont multipliées dans le pays, y compris à Téhéran, la capitale. De nombreuses femmes ont retiré leur voile en criant « mort à la dictature » et des manifestants ont jeté des projectiles sur le portrait du guide suprême iranien Ali Khamenei. Un an après la prise du pouvoir par la junte militaire en Guinée-Conakry, l'incertitude plane toujours. Ce petit pays d'Afrique de l'Ouest fait souvent face à des affrontements entre jeunes manifestants et forces de l'ordre. L'interdiction des manifestations politiques par les autorités guinéennes a créé des tensions. À cela s'ajoutent les revendications du Front National pour la défense de la Constitution, le FNDC, les acteurs de la société civile et de l'opposition qui exigent un retour à l'ordre constitutionnel. Ils dénoncent une confiscation du pouvoir, la répression des voix discordantes et une instrumentalisation de la justice. Des leaders du FNDC sont emprisonnés, ainsi que certains ministres de l'ancien régime d'Alpha Condé. Et les populations qui aspiraient au changement après le coup d'État du 5 septembre 2021 subissent la cherté de la vie. Éclairage de ce contexte bien sombre avec Camaro Mamadi, analyste politique guinéen.
Il y a des interdictions formelles à manifester qui sont désormais en vigueur. Il y a la répression sanglante des manifestations qui ne date pas de maintenant. Les 10 dernières années également ont connu des manifestations très répressives et très ensanglantées. Malheureusement, le discours de prise de pouvoir avait condamné cette pratique et avait annoncé de nouvelles méthodes de gestion des manifestations et des libertés publiques. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, très malheureusement. Et cela amène à considérer que nous devons renforcer encore une fois la gestion des libertés publiques.
Le porte-parole du gouvernement guinéen a affirmé récemment que l'État n'est pas en mesure d'apporter une assistance nécessaire aux initiateurs de manifestations. Qu'en pensez-vous?
C'est une incongruité parce que lui-même, pendant 10 ans, il a combattu le régime défunt qui brimait les concitoyens dans l'exercice de leur liberté publique. Lui-même a été emprisonné parce qu'il avait pris part à des manifestations interdites. Et le discours qu'il tenait à l'époque, c'était un discours assez corsé contre le gouvernement. L'on se souvient d'ailleurs que le premier ministre de l'époque, Dr Kassori Fofana, avait affirmé qu'il préférait l'ordre à la loi. Et l'actuel porte-parole du gouvernement s'était offusqué de cette déclaration et avait publié et crié urbi orbi partout que le gouvernement ne méritait pas la confiance du peuple parce qu'il était un gouvernement oppressif.
Les Guinéens espéraient tant au changement avec l'arrivée au pouvoir du CNRD. Est-ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui un peu déçus?
J'avoue que je ne suis pas satisfait de ce qui était pour moi des attentes majeures de cette prise de pouvoir. J'avais vraiment espéré que tous ceux qui avaient été stigmatisés et condamnés le 5 septembre dans le discours inaugural de ce coup d'État auraient été le déclic d'un changement profond que les Guinéens auraient pu ressentir. Malheureusement, le constat que je fais n'est pas reluisant. Et j'avoue aujourd'hui que la conduite de la transition elle-même ne me rassure pas. Et cela ne permet pas de dire que les lendemains seront meilleurs que le passé le plus récent.
La transition de 36 mois suscite de vives tensions au sein de la classe politique guinéenne. Le CNRD, le comité national donc du Rassemblement pour le Développement, aurait-il un agenda caché qui consisterait à présenter un candidat à la prochaine élection?
L'agenda qui a été décliné n'est pas en train d'être mis en œuvre comme il a été annoncé. Il n'y a pas eu de consensus sur le délai de conduite de la transition. Les 36 mois ont été octroyés par le CNRD parce que les dispositions de la charte prévoyaient un conciliabule entre les forces vives de la nation et le CNRD pour arriver à définir une durée consensuelle. Malheureusement, le CNRD a publié cette décision affirmant que la transition ferait 36 mois. Nous avons déjà un an passé en perte et profit sans que rien ne puisse véritablement changer. Et je ne sais pas à partir de quand ces 36 mois commenceraient à courir. Je ne suis pas persuadé en tout cas que cette durée soit une durée qui serait respectée parce que beaucoup de choses restent encore à faire et rien n'est fait dans ce qui doit être fait.
Voilà, interrogé par Myriam Sandouno, l'analyste politique guinéen Karamo Mamadi était l'invité ce matin de Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information en direct de Rome, ce sera à 13h. Je vous souhaite une excellente journée.